Charlotte Coquillon, bonjour.
Bonjour.
Harlem, une histoire de la gentrification, débute par cette question. Les Noirs seront-ils capables de se maintenir à Harlem? Alors, c'est une question qui a été posée en 1925 dans un essai sur la formation de ce quartier de New York. Et un siècle plus tard, vous apportez la réponse. C'est sans doute non, car Harlem, capitale de l'Amérique noire, est devenue l'emblème de la gentrification. La gentrification, c'est donc ce processus par lequel une population pauvre d'un quartier populaire est remplacée par une classe sociale plus aisée. On va commencer, Charlotte Coquillon, par un peu d'histoire. Comment Harlem est-il devenu un quartier mythique de New York, phare de la culture noire américaine ?
Merci de me poser cette question parce qu'effectivement, on sait très peu cette partie-là de l'histoire de Harlem, qui est qu'à la base, ce quartier avait été construit pour la bourgeoisie blanche. C'était une extension au nord de l'île de Manhattan.
Où vous allez passer les week-ends dans un premier temps.
Exactement, pour l'aristocratie et puis un front d'urbanisation qui augmente, qui repousse toujours un petit peu plus les limites vers le nord de l'île. Et donc, ça explique aussi le patrimoine architectural magnifique qu'il y a à Harlem avec ses grandes demeures, ses grandes brownstones qui aujourd'hui font ce patrimoine et cette richesse pour la gentrification. Mais donc à la base, c'était un quartier pour la bourgeoisie blanche. Et puis la spéculation qui a accompagné la construction de ce quartier et notamment avec l'arrivée d'une ligne de métro au début du XXe siècle, en 1904, a créé une surproduction de logements, une offre trop importante par rapport à la demande. Et un mélange de spéculateurs et de propriétaires immobiliers ont finalement préféré vendre et louer à des familles noires et à des personnes noires à un moment où la ségrégation était en vigueur, ce qui a fait fuir les propriétaires et les locataires blancs très très rapidement, à un moment où en plus on avait une grande migration depuis du sud des États-Unis vers les villes industrielles du nord, cette génération née après l'esclavage et qui recherchait des opportunités économiques.
Donc on a fuyait la ségrégation qui continuait à exister dans le sud.
Exactement, qui fuyait la violence du régime ségrégationniste très violent du sud. Donc on a la concomitance de ces différents phénomènes qui font que en 10 ans, le quartier se transforme et devient un quartier noir.
Et donc on va arriver aux années 20. Les années 20, c'est Harlem Renaissance, cette effervescence artistique, intellectuelle.
Oui, et alors voilà, le quartier accède à une renommée mondiale, internationale, avec cette effervescence intellectuelle, artistique, culturelle, de très grands noms, très grands artistes. Et la population blanche vient se divertir à Harlem, vient dans les théâtres, dans les jazz clubs, etc., qui sont en partie interdits d'ailleurs à la population noire. Et puis, il y a des auteurs, des poètes, de grandes figures politiques aussi. C'est un centre politique du panafricanisme notamment. Ça devient un lieu incontournable pour les visites politiques de la communauté noire.
Lors des campagnes électorales. Le déclin finalement d'Harlem va quand même vite arriver parce qu'on le situe, le début en tous les cas, avec le krach boursier de 1929. Ça va se prolonger, déclin des investissements jusque dans les années 70 avec la ghettoisation qui produit pauvreté, crimes, violence, usage de la drogue. Et vous montrez dans votre livre que cette ghettoisation de Harlem a été orchestrée.
Oui, parce que s'ajoute en fait au phénomène que vous venez de citer les avancées aussi des droits civiques. Puisqu'il faut revenir un tout petit peu en arrière, pardon pour cette parenthèse, mais évidemment la ségrégation faisait qu'il y avait toutes les classes sociales à Harlem, la ségrégation raciale. Et quand les droits civiques permettent aux familles noires d'aller en banlieue dans les années 60 et 70, ne restent dans les villes-centres que les populations les plus défavorisées et les plus précaires. La ville de New York perd à ce moment-là des revenus fiscaux et a fait face à des dépenses sociales plus importantes. Donc on assiste à un déclin très rapide et une dégradation très rapide du quartier avec des politiques publiques qui aggravent évidemment cette relégation et cette marginalisation. On met dans ce quartier un certain nombre de ressources, d'infrastructures et de centres, par exemple pour les sans-abri, de centres de désintoxication, de logements publics parce que c'était moins cher. Donc on concentre la pauvreté aussi dans ce quartier-là et on y concentre tous les problèmes sociaux qui vont accélérer la dégradation du quartier.
Et alors, ce qui est intéressant, vous parliez de la bourgeoisie noire, donc elle fuit elle aussi, comme la population blanche, le quartier d'Harlem, mais à partir des années 80, c'est le début de la reconquête de Manhattan, donc Harlem est un quartier de Manhattan. On a donc un processus de gentrification, mais vous expliquez bien dans votre livre qu'on n'est donc pas sur un schéma classique, puisque ce n'est pas une population noire paupérisée qui est chassée par une classe blanche aisée. Là, on a la bourgeoisie noire qui va enclencher ce phénomène de gentrification.
Effectivement, on assiste à deux choses à Harlem très importantes. C'est que d'une part, la gentrification résulte de politiques publiques intentionnelles et volontaristes, mais qu'elle démarre avec la classe moyenne supérieure noire ou la bourgeoisie noire qui finalement est déçu de la vie en banlieue, qui s'aperçoit que la banlieue est toujours ségrégée finalement. Il y a des banlieues noires et des banlieues blanches, mais que du coup on est en dehors du centre-ville et puis que quelque part il y a une responsabilité aussi vis-à-vis du quartier de Harlem qui est un élément du patrimoine culturel, politique de la communauté noire et que ces personnes-là ont une responsabilité pour le réinvestir. Donc on a ces familles qui reviennent à Harlem et dans la ville-centre et qui participent à le restaurer, le rénover, mais qui ont finalement des aspirations assez proches de celles de la classe moyenne blanche. Donc ce n'est que la première étape avant l'arrivée aujourd'hui de classe moyenne et de classe supérieure blanche qui finalement contribuent de nouveau à l'effacement de cette population noire qui a été une étape nécessaire puisque le racisme et les préjugés faisaient que la population blanche n'était pas prête tout de suite à s'installer à Harlem puisqu'elle y croyait encore qu'il y avait trop de dangers, elle ne voyait pas encore le potentiel du quartier, mais maintenant qu'il est prouvé qu'on peut spéculer et y vivre très convenablement, aujourd'hui la population se précipite sur le quartier.
Alors justement, face à ce phénomène, ça a fait émerger une colère, un ressentiment de la part des habitants d'origine d'Harlem. Vous documentez un certain nombre d'actions de résistance, mais en même temps, cette résistance, elle va être vaine.
Oui, alors ça, c'est une des questions que j'ai du mal moi-même à trancher sur la réussite ou non des mouvements de résistance. Parce qu'effectivement, il y a eu des mobilisations de la population de Harlem qui était à la fois opposée à la gentrification, mais sur des stratégies et des raisonnements différents. Pour certains, il fallait préserver le patrimoine architectural et protéger finalement la bourgeoisie noire et la valeur patrimoniale du quartier. Pour d'autres, il fallait protéger la question de la classe sociale et de la classe ouvrière. Et donc, la question n'était pas tellement que des blancs arrivent, la question était que de toute façon, même des ménages noirs riches étaient problématiques dans l'effacement et dans un rapport de force, dans une lutte des classes. Donc il y avait des stratégies différentes, et puis qui faisaient face à des grands projets qui étaient donc soutenus par la ville, hein, par la municipalité, et par des acteurs privés.
Mais c'est ça, c'est avoir des leviers face aux investisseurs immobiliers, face aux équipes municipales.
Exactement, et qui ont une très forte collusion avec le secteur privé, surtout dans les années Michael Bloomberg, avec l'Université de Columbia qui s'étend dans le quartier et que je documente aussi avec précision, où on voit que les tentatives de résistance à l'extension de l'université privée dans ce quartier vont permettre à la population, oui, d'obtenir certaines compensations financières, un certain nombre de logements, un certain nombre de programmes sociaux, mais qui finalement, 10 ans, 15 ans plus tard, sont bien minces par rapport aux transformations fondamentales, notamment démographiques, dans le quartier.
Et donc cette grande difficulté à pouvoir s'opposer à cette exclusion, vous dites que c'est une question de démocratie aussi, cette incapacité à se faire entendre.
Bien sûr, c'est une question de démocratie parce que ça revient à se demander qui a le droit à la ville. C'est la grande question d'Henri Lefebvre qui structure aussi une partie de mon analyse. Qui peut vivre dans les quartiers? Est-ce que ce sont les personnes qui peuvent se payer les loyers de ces quartiers-là, ou est-ce que ce sont les personnes qui participent à sa vitalité, à la création de richesses, à sa renommée internationale culturelle? Un des exemples qui est à la fois anecdotique et en même temps très typique, c'est ces nouveaux habitants qui aiment le folklore local et la musique et qui aiment voir des musiciens dans les parcs et des gens jouer aux dominos dans la rue et qui, en fait, une fois qu'ils sont leurs voisins, appellent la police parce que ce sont des nuisances sonores, parce que ce sont des gens qui occupent les escaliers, parce que, etc., et qui finalement participent à invisibiliser et repousser, éteindre ces pratiques locales qui étaient là avant eux.
Et le plus paradoxal, hein, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que si Harlem n'est plus un quartier noir, alors je vais donner des chiffres, hein, quand même. En 1980, la population noire non hispanique représentait 94% du quartier d'Harlem. Et en 2020, 51,8%. Donc c'est pour ça qu'on pense maintenant que c'est passé en dessous de 50%. Donc Harlem n'est plus un quartier noir, mais en même temps, les investisseurs dans le secteur de l'immobilier ou les agents du tourisme instrumentalisent ce passé noir de ce quartier pour renforcer son attractivité.
Exactement. Ça reste le capital culturel local. C'est de pouvoir... on a des fresques sur Malcolm X, le boulevard Martin Luther King Jr. On va instrumentaliser comme ça les églises noires qui elles-mêmes perdent de la population, perdent des fidèles et sont dans des difficultés financières parce que les fidèles de leurs églises ont dû déménager et n'habitent plus dans le quartier. Alors certains continuent à venir dans cette église-là puisque c'est l'église familiale bien qu'ils ont déménagé. Mais donc on a une sorte effectivement de paradoxe et d'hypocrisie en fait hein, vis-à-vis du quartier où on le vend, on le market, on attire des touristes sur le fait que c'est une capitale noire, le jazz, le hip-hop, etc. Mais en fait, la population qui fait cette culture n'a plus le droit d'y vivre. Quartier.
Et alors justement, vous disiez, ils ont déménagé. Où ont-ils déménagé ?
Alors, on observe plutôt une dispersion de la population de Harlem parce qu'elle est partie pour différentes raisons et par différents mécanismes. Certains ont été déplacés directement et sont peut-être relogés dans des quartiers un petit peu plus éloignés de New York ou du New Jersey ou de Upstate New York. Donc, ils font des trajets quotidiens un petit peu plus longs en transport, se sont un petit peu éloignés. Pour d'autres, notamment par exemple les enfants de Harlem qui après leurs études n'ont pas pu revenir s'installer à Harlem, mais sont des diplômés, sont repartis dans le sud des États-Unis, notamment en Géorgie et à Atlanta, qui est devenue de nouveau une capitale noire.
Ce qu'on appelle la migration inversée, ils font le chemin inverse de leurs parents.
Exactement, ils se rendent compte que finalement, dans les villes du Nord, une fois encore, discrimination, ségrégation, manque d'opportunités et que finalement, dans cette classe créative, très diplômée, plutôt avec des bons revenus et un bon statut social, repart dans les villes du Sud. Donc on a un petit peu une dispersion comme ça des personnes. Et puis il y a des personnes qui ont aussi, par exemple les personnes âgées, qui ont vendu leur maison, parfois à des promoteurs immobiliers ou à des agents immobiliers peu honnêtes, qui leur ont racheté pour des bouchées de pain, parce qu'ils préféraient acheter un pavillon pour leurs petits-enfants plus loin, ailleurs, en banlieue. Donc on a différents schémas de départ et une dispersion. On n'a pas la reconstitution d'un autre quartier identique plus loin.
Et ce sera ma dernière question. Est-ce que la feuille de route de la gentrification d'Harlem est duplicable dans d'autres quartiers, dans d'autres villes des États-Unis ?
La gentrification, c'est devenu la politique urbaine principale de quasiment tous les pouvoirs publics et même pas seulement aux États-Unis. Aujourd'hui, sous des prétextes de mixité sociale, raciale, on rénove des quartiers. Mais cette rénovation, au lieu de bénéficier aux habitants locaux, bénéficie aux nouveaux venus et attire une nouvelle population. Et finalement, ce qu'on critique dans la gentrification, ça n'est pas la rénovation en tant que telle, puisqu'elle est bienvenue pour tout le monde, mais c'est que ceux qui en bénéficient ne sont pas les habitants d'origine.
Merci Charlotte Recoquillon.
Merci.